Martin.
Et bonjour monsieur Eric, bonjour chers auditeurs fidèles de Carbut 40. Et
chères auditrices.
Et auditrices.
Alors aujourd'hui, c'est le mois de juin.
C'est le mois de juin, donc vacances, playa, la montagne, la moto, tout quoi.
Normalement, puisqu'on va être libérés.
De plus en plus. Mais et nous puis... on a commencé.
On va en parler un petit peu de ce qu'on a fait partout. Non, parce que c'est vrai qu'au mois de juillet, au mois d'août, en général, on n'a pas nos émissions ou des rediffs suivant ce qui va se passer. Mais là, bon, a priori, les concerts, tout ça, ça reprend. Je pense que les taureaux vont reprendre aussi. Donc, on se retrouvera en septembre avec.
Septembre, normalement, la totale.
Avec la liberté.
L'amitié des motards, notre partenaire.
L'amitié des motards. Donc, il nous prépare quelques petites émissions précises sur la moto. Et voilà. Et puis là, on avait envie de vous faire partager notre expérience.
Une passion qu'on a de roues.
Voilà. Hein? De roues, mais pas des grosses cylindrées.
Pas de grosses cylindrées. Donc,
de la mobilette.
La mobilette, parce qu'en mobilette,
on se la fait.
Voilà.
Et donc, du coup, notre ami Martin, ici, grand géo de la mobilette, nous a organisé une petite balade dans les Cévennes.
Donc, nous avons fait ça au mois de mai, là. Donc, une semaine donc, du 8 au 16 mai, ou un truc comme ça. Et puis donc on est parti et on s'est fait combien de bornes dans la semaine? On s'est fait à peu près 1000 bornes dans la semaine. Bon, vu Covid, on a fait à partir d'un point fixe.
Voilà, puisque d'habitude c'est,
C'est
à l'arrache avec les tentes.
Avec les tentes et tout.
En autonomie complète.
Ouais.
Pas de camion qui suit.
Pas de camion. Et là donc on est parti avec nos petits 50 et on a fait des boucles tous les jours.
Alors qu'est-ce que c'est comme mob? Qu'est-ce qu'on a dans le groupe comme mob?
Alors nous on n'est que motobécane. Donc des 88 pour les anciens, des 881, qu'est-ce qu'il y a encore, des 51,
ouais.
Mais beaucoup de 881. On dira que c'est la majorité, donc cyclo fiable,
hein,
qu'on peut charger.
Pour certains.
qu'on peut charger. Ah ouais, on avait un copain qui avait une EV50.
C'est vrai.
Hein?
Un EV50,
qui nous a bien...
Il va être content quand il va
ouais. être content. ouais, qui nous a bien, on va dire, ralenti la marche. Hein.
Ouais.
Puisque pendant les trois premiers jours, il a fallu qu'il la mette au point. Bon, alors après, il vous dira qu'il l'a acheté dans les Landes. Donc... Mais c'était un EV50. Donc, notre cher ami Christian, bonjour à toi.
Voilà. Parce que l'expérience 2, c'est vrai qu'à force de partir comme ça, on s'aperçoit toujours que les deux premiers jours, c'est vraiment des jours de réglage. Quoi.
C'est des jours de réglage. Alors, l'avantage dans notre groupe, parce qu'il faut dire qu'on était quand même 19.
19
mobs, hein, c'est qu'on a à peu près les mêmes modèles. Donc, au niveau des pièces, on se répartit.
On sent l'expérience qui parle.
Voilà, donc ça nous évite d'être emballé des pièces très différentes suivant les modèles. On a presque tous les mêmes modèles et les mêmes moteurs. Donc, on
donc
part
ça,
avec
ça. C'est vraiment
ce qu'il
un
faut.
Conseil, quoi. J'ai dit, bon, motobécane, on aime ça.
Voilà.
Mais c'est vrai que le fait d'avoir des machines avec les mêmes moteurs, bon, qu'on appelle des moteurs AV10, en général, il n'y avait même pas trop de moteurs AV7 encore,
non.
Parce que il n'y avait pas de 80 quand même.
Mm-hmm.
Bon, l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on se partage les pièces et que chacun arrive à réparer avec les pièces des uns et des autres, et puis qu'on se rend à l'issue.
Et qu'on connaît par cœur ces moteurs, quoi.
À force
de leur faire des bornes, on les connaît par cœur, quoi.
Donc là, en fin de compte, même pas libéré du Covid, une petite semaine comme ça à 19
personnes, ça fait du bien. Hein.
Ça fait du bien.
Ouais, ça fait du
avec
bien.
Avec les chouilles qui vont le soir avec, on a
bien sûr.
Pensé à vous, hein, tout ça dans les dents. Bon, on n'a pas eu la météo.
On a eu, ça n'a pas été trop mal, quoi. Ça aurait pu être pire, parce qu'il paraît que dans les Landes, c'était quand même bien arrosé pendant cette semaine-là.
Mm-hmm.
Nous, on a arrosé plutôt au niveau des soirées.
Il y a eu rattrapage.
Voilà, il y a eu rattrapage. On a été un petit peu embêté par l'actualité, puisqu'il y avait un fou qui se promenait dans le coin.
Mmh,
donc
vrai.
Il a fallu qu'on modifie les itinéraires de balade.
Donc, petit rappel, dans les Cévennes, quoi, une cinquantaine de bornes de Mende.
Les Plantiers, à 30 bornes de l'Aigual, quoi. Voilà.
Donc alors après, l'idée, tout le monde est parti là-bas, c'est donner rendez-vous dans cette maison
forestière,
un hameau énorme en plein milieu de la forêt.
En plein milieu de la forêt.
Trois bandes de pistes pour pouvoir.
Trois bandes de pistes, alors ça met tout de suite déjà dans l'ambiance. Quand la piste est boueuse et tout, ça te met dans l'ambiance. T'as bien pour aller un quart d'heure pour sortir du bois, pour que le loup sorte du bois.
Ouais.
Et ensuite, on s'est attaqué des super balades, quoi. Gorge de la Jonte, Gorge de la Dourbie, Cirque de Navacelles, Mont-Aigoual.
Les Gorges du Tarn.
Les Gorges du Tarn, bon, tout ça, quoi. C'est un régal par des petites routes où tu croises personne quand t'es en mobilette. Faut sélectionner les routes, hein. Tu fais des itinéraires qu'on avait repérés avant, quoi, et tu sélectionnes des routes et du coup tu croises quasiment pas de voitures, quoi. Voilà. Et tu te régales.
Et tu te régales. Ouais. Le paysage, c'est magnifique, hein, là-bas. Toute la partie des Cévennes, c'est des paysages à non plus finir.
À différence de la moto, c'est que tout le monde est sur le même rythme. Parce qu'on est tous avec les mêmes mobs.
Ce qui n'empêche pas de se tirer des petites bourdes.
Des petites bourdes de temps en temps.
Dans les descentes, voilà. Dans les virages, etc.
Donc ça, c'est le gros avantage, et que quand tu te promènes en mob, tu t'es moins sur la conduite et plus sur l'appréciation des odeurs, du paysage, quoi. T'es moins sur la trajectoire, t'es plus sur qu'est-ce que je vois autour de moi, quoi.
C'est vrai que l'avantage, ouais, c'est l'avantage. Après, au niveau organisation, donc bon, s'il y a besoin de conseils, Monsieur Martin, il est au point, quoi, aussi bien pour les repas et tout ça, parce qu'à 19, c'est jamais évident, donc sachez que... Si jamais vous voulez organiser des trucs comme ça, on peut vous filer des petits conseils.
Il y a des petits conseils, il y a des petits trucs qui facilitent et qui amènent une bonne gestion culinaire, hein, ou de bons petits repas, quoi.
C'est vrai. Et ça peut se faire en moto aussi bien qu'en mob, si vous voulez.
Voilà. Et un budget quand même pas très élevé, on va dire.
Non. Hein.
Puisque, bon, en dehors du fait qu'on ait eu une location pas chère, repas, etc., ça revient pas très cher si on sait où il faut aller, quoi, et ce qu'il faut prendre, quoi.
Voilà. Avec un petit bouquin à la clé,
un petit bouquin
pour tout le monde, pour se faire plaisir et pour se remémorer ça. Et voilà. Bah écoute, voilà une première partie, mon petit Martin.
Ouais.
Donc ce qu'on vous propose, c'est d'écouter des passionnés de la mob aussi. On va vous faire un petit historique de la mob. Et puis quelques interviews de passionnés comme nous, et puis on se retrouve après pour l'oreillette des motards.
J'ai juste un petit truc à rajouter,
c'est qu'il
se trouve qu'en se promenant sur une petite route, à un moment, qu'est-ce que je vois en face de moi, puisque j'ouvrais, puisque je faisais les itinéraires, je vois une mob arriver. Une mob arriver sur une petite route, mais vraiment perdue. Et je croise le gars, je lui dis, il s'arrête et tout. J'en vois une deuxième qui arrive, une troisième qui arrive. Ils étaient 10 en mob.
C'est vrai.
Donc comme quoi, il y a des groupes partout. Et des mecs qui font ça, quoi. Là, c'était des Brélons Aveyronnais.
Voilà, donc, un camion.
Bon. Avec un camion, ah oui, bon, les pauvres. Et du coup, on a passé une demi-heure à discuter ensemble, sympa, quoi. C'est toujours des rencontres.
C'est super. La première fois depuis le temps qu'on roule, quand même, qu'on croise un groupe comme ça.
Ouais.
Et c'était vraiment sympa.
Ouais.
Ouais, c'est...
MDM.
MDM.
Tout un monde.
Alors je ne sais pas vous, mais ça y est, moi j'ai retrouvé mes 14 ans. Ce sentiment mais délicieux d'avoir un truc mais super léger, d'avoir ces vibrations dans le pédalier, d'avoir cette agilité mais qu'on n'a plus jamais connue sur n'importe quelle autre moto. Ce bruit de crécelle, et puis finalement ça accélère, hein, c'est un peu mou au départ. Et puis à mes régimes, il y a un coup de boost. Alors faut dire aussi que c'est la mob de Thierry, notre gérant, et que dans les Vosges, on sait faire des carburations. Je sais pas à quoi ils font tourner, mais elle marche. Alors j'ai 14 ans et c'est vachement cool. C'est un sentiment mais hyper jubilatoire. Je m'étais dit bienvenue dans cet apéro qui risque d'exclure un peu les vieux, tous ceux qui ont plus de 45 ans, parce que la mob, bon bah ça parle quand même aux gens d'une certaine génération. Mais en fait c'est faux, il suffit de monter dessus pour retrouver une espèce de jeunesse éternelle. Et puis la mob en fait, elle a franchi sa propre histoire. C'est-à-dire que le nom est devenu générique. Un peu comme Bic, un peu comme Karcher, un peu comme Canadair, et puis un peu comme Cahuzac, hein, quand on dit qu'on n'a pas de compte en Suisse. La mob, ça me rappelle plein de souvenirs différents. C'est à la fois un petit vieux papy, la tour à bougrie, mais absolument adorable dans ma campagne ardennaise avec son béret et son vieux bleu de travail. C'est des mamies qui allaient faire les courses au village d'à côté. Alors l'histoire de la mobylette commence en 1949. Bien entendu, dès le début du siècle, on a le principe du vélo moteur. Finalement, la mob, c'est jamais que l'évolution de ce concept de vélo et de moteur, mais ça n'a jamais été aussi abouti. En fait, ce qui est génial dans la mob, c'est la simplicité dans l'intelligence et vice-versa. Pour la première fois, on a un truc qui est fait pour vous faciliter la vie. Les vélos à moteur, c'était souvent un peu mal branlé, un peu déséquilibré, etc. La mob, tout est génial. Le décompresseur, suffit de pousser la manette. Le starter est ici. Il y a un petit robinet d'essence à la main. Il y a évidemment deux chaînes pour avoir à la fois la traction avec le moteur, mais on peut aussi la pédaler au besoin. Et on peut dire que la mob, c'est vraiment le bon engin au bon moment. Il faut se remettre dans le contexte. Dans la France des années 50, on est évidemment dans la reconstruction de l'après-guerre, mais on a aussi, peu de temps après, la crise de Suez. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des classes populaires sont encore globalement assez pauvres, que la voiture est un luxe qui sera progressivement étendu à toute la société, hein, via les 4L, les 12 chevaux, toutes ces petites voitures comme ça d'accès. Ce sera le même cas dans tous les pays d'Europe avec la Mini, la Coccinelle, la Fiat 500, etc. Mais dans ces années 50 où l'essence est rationnée, on a par exemple droit à 6 litres d'essence par mois pour une mobylette, de quoi faire environ 600 km, alors que si vous avez une voiture, vous n'avez que droit à 30 litres. Donc du coup, la mobylette s'impose assez rapidement comme en fait l'outil, l'engin idéal pour la mobilité des classes populaires. Et quand je dis classe populaire, ça n'a rien de péjoratif. En fait, une mob, quand elle est sortie, ça valait à peu près 3 fois moins cher qu'une 125, qui à l'époque était en fait l'outil de base aussi pour que les gens puissent se déplacer. Donc on répond vraiment à un phénomène de société. Quelques chiffres pour comprendre. En fait, la première année de commercialisation en 1950, Motobécane en fait 44 000 exemplaires. En 1955, ils auront franchi la barre du million. Et dans toute sa carrière, la mobylette aura été produite à plus de 12 millions d'exemplaires. Ça veut dire que dans son âge d'or, dans les années 60-70, en fait, Motobécane sera un moment de l'histoire. Accrochez-vous, parce que c'est vrai, la marque de moto, de deux roues, qui produira le plus grand nombre d'unités au monde. Ça paraît complètement fou. Aujourd'hui, ça a disparu. Les Japonais ont complètement envahi le business. Mais à l'époque, c'était Motobécane. Dans toute sa carrière, 12 millions d'exemplaires. Il ne faut pas se focaliser sur la, je dirais, à mon âge, hein, c'était un peu Mobilette ou Peugeot 103 SP. Il y a eu plein de marques, mais c'est vrai que les deux gros géants français ont finalement repris un petit peu tout le marché. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la Mobilette, il faudrait carrément des heures et ce petit apéro n'y suffirait pas. Entre la AV3, donc la toute première, jusqu'à la AV88, la bleue, la 51, les oranges comme celle-ci, puis il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. Il y a eu, au fil de l'histoire, plein d'évolutions sur la forme des pistons, la façon dont les transferts étaient dessinés pour l'admission de l'essence, sur l'embrayage centrifuge qui arrive un peu en 51, sur la forme du cadre, il y a eu plein de choses. Il y a eu des mobilettes de cross, il y a eu des mobilettes chopper, il y a eu plein de séries limitées, c'est une histoire assez dingue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un engin qui pouvait soit rester d'origine, et je trouve que c'est un look absolument incroyable, comme ça, dans son jupe bien patiné, bien ratonné, soit ça pouvait aussi donner lieu à toutes les modifications possibles. Moi, j'ai des copains qui étaient très bons pour jouer de la lime. Mais en tout cas, ça a vraiment parlé à toutes les générations, Motobécane, Peugeot, il y a eu plein d'autres marque, mais en tout cas les deux gros géants ont finalement phagocyté un petit peu tout le marché de la mobylette. Alors la mob, c'est bien plus que ça, c'est ce qui fait que on sait pourquoi on est devenu motard et pourquoi c'est hyper important dans notre vie. La mob, c'est la liberté, c'est les premiers moments sans les parents, c'est les copains, c'est l'amitié, c'est les balades en groupe. C'est le froid, c'est la pluie, c'est les gamelles. D'ailleurs, parlant de copains, moi j'avais une 103 Sport blanche. Mon pote Olive avait une 103 Sport noire, avec une tête de SOS fantôme peinte sur le carter, j'ai jamais compris pourquoi. On avait un autre copain, Damien, qu'on appelait Gamelle. Et lui, il n'est pas devenu motard, et c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux comme ça. Et puis la mob, c'est les premiers trips à 45 à l'heure de croisière. C'est les copines, hein. Moi je me souviens des petites amies à l'époque en jupe, en Amazon à l'arrière, sans casque. On faisait ça au fond des Ardennes. Aujourd'hui on serait mais incendié sur la place publique. Et finalement la mob qui fait aussi bien. Moi franchement là je retrouve vraiment mes 14 ans, mais j'adore ça. C'est trop cool. C'est parce qu'en fait ça porte les valeurs universelles de la mob ardittonnée. Pour moi un des bouquins les plus structurants de ce pourquoi on fait de la moto, c'est Nous rêvions juste de liberté d'Henri de Benbruck. Je suis sûr que ça pourrait se passer avec des mobs. Et même les grands paysages, ça fait pas peur à la mob. Là, il y a deux mecs, deux retraités qui vont les taper le route 66. Et j'avoue que quelque part, je les envie. Je sais pas si vous, ça vous tente. En tout cas, la mob, on a demandé aussi à toute la rédaction ce que ça lui évoque. C'est parti.
Est-ce que tu as commencé ta carrière de motard sur une mobylette? Alors, je sais pas si on peut parler de carrière, mais effectivement, pour moi, c'était vital. J'habitais dans un petit village en Haute-Saône. Donc, si tu n'avais pas de mobylette, tu étais personne. Et bon, alors, je suis toujours personne, mais en tout cas, j'avais une mobylette avant même d'avoir le BSR. Je piquais en loose dé celle de ma sœur. Et j'ai fait, franchement, j'ai fait tous les virages du village. Je les connais par cœur, vraiment, les fossés surtout, en fait.
Eh ben non, pas sur une mobylette, mais sur une Peugeot. Si on prend mobylette au sens strict du terme, c'est la mobylette motobécane, alors que moi, j'étais Peugeot. C'est une Peugeot 103 SP. J'avais 14 ans et je me la suis fait tirer devant un supermarché et j'en ai été malade pendant des mois.
Alors oui, une Peugeot 102 avec le réservoir sous la selle, un pot de détente et un carbut 15.
Alors quand t'as 14 ans dans les Ardennes, il y a un truc qui est pas cool, c'est que ton voisin, c'est Michel Fourniret. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est qu'à 14 ans et un jour, tes parents ils te filent une mob tellement ils en ont marre de t'emmener partout. Donc oui, j'ai commencé ma carrière de motard avec une mob.
Alors oui et non. En fait, mon premier deux roues, c'était un Yamaha TY50. Donc c'était un 50 à vitesse. Donc c'était pas vraiment une mob, mais à l'époque, c'était considéré comme une mobylette puisqu'il y avait même un système de repose-pied que tu pouvais mettre en pédale pour pédaler comme un vélo, c'était ça. Je me la suis fait vite voler, donc effectivement je suis passé sur un 103 SP à l'époque, Peugeot 103 SP, donc oui j'ai fait quelques mois avec un 50 à boîte, après ça avait été interdit les 50 à boîte et j'avais dû passer, à mon grand regret, sur une 103 SP Peugeot, dont vous voyez la photo là, j'avais 15 ans et demi, voilà.
Ce qui est marrant, c'est que c'était pas exactement une mobylette, c'était une caddie que je piquais avant d'avoir le gars, là, ma frangine, pour aller faire des bonds dans les terrains vagues. Donc c'est pas exactement mobylette, mais ça reste un petit peu quand même dans le giron.
Si tu te remets dans le contexte de l'époque, tu serais plutôt motobec ou Peugeot? Ah bah alors moi, c'est simple, motobec, je voulais pas en entendre parler, j'aimais pas la gueule de ces mobylettes. En revanche, Peugeot, je craquais, donc mon 103 SP, j'en étais fou amoureux. Je l'ai transformé, je l'ai crossifié, entre guillemets, je l'ai tout de suite, j'étais fanat de cross à l'époque, j'avais 14 ans, je me disais, il faut absolument que je devienne champion de cross. Bon, aujourd'hui, je suis même pas un champion aux échecs ou rien, bref. Je l'ai crossifié, j'ai mis un guidon Sacom, j'ai mis des amortisseurs et tout, j'ai pulvérisé 10 fois ma mobylette. Il n'empêche que je me la suis fait quand même tirer, ça avait beau être une Peugeot, mon 103 SP, ben, il a disparu. Donc voilà, j'aurais peut-être dû prendre une mobylette, une vraie.
Alors c'est pareil, à l'époque de mon adolescence, donc milieu des années 80, il y avait deux questions philosophiques, c'était Indochine ou téléphone, et motobécane ou Peugeot. Moi j'étais téléphone, j'étais Peugeot, et puis il y avait aussi des copains à moi qui écoutaient Mylène Farmer et eux ils roulaient en Chao.
Dans le contexte de l'époque, moi j'ai été plutôt Solex parce que j'ai commencé par ça. Et comme j'étais dégoûté par le fait que ce machin marchait pas, je l'ai défoncé à la terre pour essayer de le faire cramer et avoir enfin la mobylette que mes parents ont fini par me payer quelques mois après.
Oh, la question, c'était la grande guerre 103 contre 51. Inutile de vous dire que moi je préférais les Peugeot. Alors pourquoi, je sais pas. Parce que honnêtement, comme on les trafiquait tous, que ce soit ceux qui avaient des Peugeot ou des motobécanes, elles finissaient par rouler la même chose. Mais je ne sais pas, je trouvais le 103 plus joli que les 51. Voilà, donc oui, ce serait Peugeot pour moi, et de loin. Avec aussi le Tsiao, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était Piaggio. C'était un pareil, une mobylette, qui était super bien pour faire des roues arrière. Et comme moi j'aime bien faire des roues arrière, j'avais aussi un petit faible pour le Tsiao. Voilà.
Alors quand j'étais ado, je préférais les Peugeot, parce que c'était plus facile à réparer. Les motobécanes, c'est un peu plus compliqué, il y a des circlips, il y a des rondelles de calage, et il faut de l'outillage un peu particulier.
Bah moi j'étais team Peugeot, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais à Sochaux, donc mon père travaillait chez Peugeot, Peugeot obligé quoi, t'avais une MBK, mais on parlait même pas.
La mob, ça t'inspire quoi? Alors la mob, ça m'inspire la liberté que tu découvres quand t'as 14 ans, et ça c'est vraiment top, et ça me fait toujours le même effet. Avec une mob, tu peux aller partout. Tu peux t'engager dans les moindres petits sentiers. Si vraiment t'es coincé, tu la prends comme ça, tu la retournes, tu repars dans l'autre sens. C'est super. Tu vois un champignon à la lisière de la forêt, ben tu poses ta mobylette dans le fossé, tu vas chercher ton champignon, tu le mets dans les sacoches, tu rentres à la maison. C'est vraiment la liberté à l'état pur.
Les premiers émois, les premières balades, les premiers campings entre potes, l'évasion, quoi, les délires. Je me souviens, j'étais au pied du ballon d'Alsace, j'essayais d'y aller. Le nombre de fois où j'ai serré un cylindre pour aller jusque là-bas, ouais, ça m'inspire aussi des longues heures passées dans le garage en bas. Là. Ouais, c'est que des bons souvenirs, la mobylette.
Eh ben moi, la mob, ça m'inspire tout simplement l'indépendance. Avant, il fallait que je me traîne couillonne toujours avec mes parents. C'est une évidence. Avant 14-15 ans, on était obligé d'être avec ses parents pour le moindre déplacement. Et puis tout d'un coup, je suis rentré dans un autre monde qui était, je me prends moi-même par la main, je monte sur ma selle, je démarre le moteur. Parfois, c'était pas facile parce que ma SP, elle était un peu délicate.
Et puis je m'en vais. Donc c'était absolument l'indépendance, avant même la liberté ou quoi que ce soit, c'était l'indépendance par rapport à mes parents et par rapport au fait de pouvoir me déplacer comme je voulais.
Bah, ça m'inspire que c'est mes souvenirs de jeunesse et mes premiers émois en fait de véhicules motorisés à deux roues qui ont fait ma passion pour la moto après. Donc c'est vraiment les débuts de la construction d'une passion, c'est excellent quoi, c'est que des bons souvenirs.
Mon premier road trip, mon émancipation à deux roues, puisque j'avais un copain qui avait une maison de campagne à Château-Thierry, où on avait fait Paris-Château-Thierry en mobile. Par la Nationale 1 ou c'est la Nationale 1 ou la 3, je sais plus, ça va être la 1. Évidemment, c'était pas du tout préparé, il y a eu de la flotte, la nuit est tombée, mais c'est un super souvenir. On a mis je sais pas combien de temps à aller à Château-Thierry, donc ça me rappelle ma première virée en fait indépendant sur un engin à deux roues.
La MOB, c'est la liberté, L majuscule, c'est la première fois dans ta vie où tu es indépendant, où tu vas où tu veux, où tu fais ce que tu veux, et c'est un sentiment mais qui est absolument incroyable. Moi, je pense que c'est pas loin du premier sentiment amoureux. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu découvres que ton horizon, c'est plus ta maison et la caisse de tes parents, c'est la route avec un R majuscule, ce fucking road. Et si tu es l'aigle de la route et que tu as des potes dans le même état d'esprit, bah, un autre horizon s'ouvre à toi. Moi, il s'ouvre à moi et je ne l'ai jamais quitté, je l'ai toujours là. 40 ans après, 35, enfin un peu plus tard.
Il y a une tendance qui remet la mob à la mode. Il y a des mecs qui partent en vacances avec, qui font des road trips, ça te fait envie.
Alors vous avez pu le voir, la MOB, ça laisse plein de souvenirs, mais peut-être des souvenirs aux gens qui ont plus de 50 ans, puisqu'en fait, après l'âge d'or de la MOB, on a vu arriver le booster, le bibis, ces scooters à petits trous un peu sculptés comme les trucs de tout terrain, puis après c'est devenu la MOB du scooter et puis du 50 à boîte. Donc là, c'est une autre génération. Si vous êtes dans notre tranche d'âge, bravo, vous êtes encore jeune, et ça vous rappelle peut-être des souvenirs d'enfance. Si vous êtes plus jeune que 50 ans, on pense que c'est un peu l'âge charnière, ben dites-vous que la MOB, c'était un peu comme la Ford T dans l'automobile. C'était un truc universel, pas cher, fiable, qui servait à la fois aux prolos pour aller bosser et aux jeunes pour découvrir la liberté. Et en fait, sous son apparence hyper simpliste, hyper minimaliste, c'est un vrai objet de la culture motarde. Dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir. Dites-nous que vous avez envie d'en acheter une pour 400 balles et d'aller partir au bout de la France par les petites routes, les petits chemins chèvres là qui sentent le chèvrefeuille. Dites-nous ce que ça vous inspire. On a envie de savoir ce que la MOB réveille chez vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, bisous sur le casque et à bientôt sur motomag.com.
Voilà, voilà. Maintenant, un petit morceau de musique avec... je vous propose un petit morceau de Gérard Lanvin, de son dernier disque. Je crois que je sais pas si l'on a fait avant, mais en tout cas celui-là avec son fils.
Gérard Lanvin, chanteur.
Avec son fils Manu qui lui a mis en musique les paroles que lui a écrites.
On a eu la gîte de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est chez Jean-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puissance mondiale en talonnette. On était bien lobés avec ça. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Puis il y a eu l'autre regard ahuri, qui a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby. Bouton de costard tendu sur sa bedaine revenue, démasqué en scooter pour rejoindre sa blonde. Il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. Si le ridicule tue, y a des morts plein la rue. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler. Sur la pluie automarche, ils ont mis le gamin. La maîtresse lui a dit, sont beaux tes dessins. Regarde bien dans les yeux quand tu serreras des mains. Toi le roi du prompteur au sourire d'enfumeur. Assieds-toi à ta place, on ne te fera pas lever. Retourne voir ta maîtresse, elle saura t'expliquer. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coffres.
un monde.
Bah, Gérard, il s'est défoncé là avec sa chanson.
Il allume un petit peu. Il allume un petit peu.
Ce serait pas les élections là, bientôt là. On aura voté.
On aura voté.
On est au mois de juin, on aura voté la région, voilà. Tout ça. Bon, on a assisté à un beau GP.
Ouais, mais c'est l'oreillette du motard alors.
C'est l'oreillette du motard.
L'oreillette du motard.
Le retour.
Le retour. Et avec des bonnes nouvelles quand même qui prouvent qu'on retourne vers une vraie vie peut-être. Il y a à nouveau
des bourses
sont programmées en tout cas.
D'accord.
Qui
sont programmées. Elles sont programmées. Plus que sur nous. Elles sont maintenant à l'extérieur aussi.
Elles sont aussi à l'extérieur.
D'accord.
Donc dans la région, on a 12-13 juin, Festival Auto Rétro 32 à Auch. Donc Bourse de Auch.
Ouais.
12 et 13, il y a Saint-Gaudens aussi. Donc il n'y a pas très loin, ça fait une bonne balade. Et la bourse
moto
est.
Moto.
Et le 30 juin, normalement, il y a le Wheels and Waves à Biarritz.
Ah, ils remettent ça.
Ils remettent ça.
D'accord.
Donc ça fait quand même pas mal de choses. Quoi,
c'est sympa pour le mois de juin. C'est vrai que.
Ouais,
là,
pour le mois de juin.
On a bien fait de partir en mob pour lancer les hostilités. Quoi, c'est cool. Donc les bourses, là, voilà.
Voilà, trois les bourses,
dates sur le mois de juin.
Trois dates sur le mois de juin.
T'as des trucs sur le mois de juillet et le mois d'août ?
Non, vous verrez, ça vous regardez, parce que c'est trop loin, ils veulent pas programmer à l'avance, ils savent pas.
Ah,
voilà, puis j'ai pas regardé.
Bon, tout le monde ira à Luxeuil, c'est pas grave.
Voilà. Alors, sinon, dans l'info, des petites choses, bon, t'as Norton qui a été racheté par les Indiens, et qui ont mis donc deux chefs managers, un Allemand et un Italien, qui sont connus dans le milieu du design et de la mécanique, et qui vont refaire des nouveaux modèles.
Bon, Norton.
Sachant que Norton, c'est une, ça existe depuis 123 ans, donc c'est quand même, il y a quand même de l'histoire.
Non, hein, oh, mais Norton, ça sonne.
Hein. Norton, ça sonne. Ensuite, qu'est-ce que, bon, un petit truc sur le bruit quand même. Il faut savoir que dans le Vercors, par exemple, ils se plaignent des motos. Alors, il y a eu une grosse campagne qui a été faite et ils ont arrêté 300 motos dans la journée pour voir si elles faisaient du bruit. Et tu sais combien il y en avait qui étaient pas normes?
Non.
Il y en avait 2%. Donc, 2%. Qu'on arrête de nous casser les couilles avec ces histoires. Hein.
D'accord. Ouais, parce que, comme on disait à la dernière émission, ils ferment des routes, des cols, des machins. Mais en vérité.
Voilà, 2%. Donc,
tu es en train de me dire qu'ils vont baisser les normes.
peut-être.
Ouais, d'accord. C'est comme les casques, il y a des nouvelles normes.
Casques, nouvelles normes. À partir de 2023, non, c'est ça?
Non, plus récemment.
Plus récent.
Ouais.
D'accord.
Enfin, bon, on verra bien. Bon, après, c'est surtout sur les points d'impact du casque, quoi.
Et maintenant, on va parler de quoi ?
Du GP de nos Français.
GP français ! Alors, 2 400 000 téléspectateurs en France.
Jamais fait, ça.
Ouais. Record d'audience par rapport à ce sport. Bien relayé dans les magazines sportifs, l'équipe, etc.
Ouais.
Par contre, encore boudé un petit peu par les JT, etc.
Ouais,
donc,
mais il y avait sur France 3, la Stade 2, où ils en ont effectivement parlé, etc.
Mais les journaux télévisés, non c'est la moto, c'est pas la moto.
C'est pas... À la radio, pourtant, deux beaux Français sur le podium, une remontée extraordinaire de Zarco, quand même.
Ouais.
Quelle bécane il a entre les mains, et puis il arrive à s'en servir, quoi.
Trois Ducati dans les quatre premières places. Donc le seul Yamaha qui s'en sort,
Quartararo.
Notre ami Fabio,
ouais.
Qui, moi, m'a surpris sur sa gestion par rapport à la pluie, par rapport à ce qu'il était l'année dernière. Là, en tout cas, on a l'impression qu'il est back dans les bacs et qu'il a pris du level.
Ouais. Parce qu'en plus, course intelligente, quoi. Enfin, il s'est dit, la troisième place, c'est la troisième place, pas grave, je vais prendre des points. Et puis il est quand même en tête du championnat du monde, du coup, on se retrouve avec les deux Français, là.
Un flag to flag, hein,
ouais.
Pour ceux qui connaissent pas, c'est...
Pas dans le bon stand.
Erreur au niveau de l'arrêt.
Pas dans le
mais bon, ça n'a pas... Et on peut quand même tirer chapeau à Jacques Miller, qui gagne son deuxième Grand Prix de suite.
Ouais, une belle course aussi.
Et une belle course,
ça,
avec deux long laps, donc deux pénalités.
Ouais.
Il réussit quand même,
qui
réussit à terminer en premier.
Mais c'est bien parce que bon, Quartararo, il y a 15 jours, il était blessé, il s'est fait opérer. Il avait le Grand Prix pour lui la dernière fois. Bon là, voilà, il gère bien. Puis Zarco,
Donc n'hésitez pas à regarder. Il va y avoir un paquet de Grand Prix là tout l'été.
Voilà. Donc là, on prochaine en Italie qui n'avait pas eu lieu l'an passé.
Ouais, 30 mai.
Voilà. Donc.
Ensuite, c'est Barcelone, 6 juin. L'Allemagne 20 juin et ensuite l'Autriche et deux grands prix en Autriche puisque le Grand Prix de Finlande est annulé Et peut-être dans les dans les tiroirs, peut-être un deuxième Grand Prix en France.
Ah bon ?
Ouais.
C'est un scoop.
C'est Claude Michi qui s'est porté volontaire, sachant que s'il y a un Grand Prix qui est annulé outre-mer en fin de saison, il se propose d'en refaire un en France.
D'accord. Voilà. Au Mans, là-haut ?
Peut-être au Mans, et peut-être avec des spectateurs.
Donc, voilà une bonne idée d'aller se balader.
Voilà. Donc, à surveiller tout ça. Hein.
Bon, ben, les copains, je suis désolé, c'est déjà la fin.
Ouais, juste un petit mot quand même de Mayas. Ouais. Quand même, notre local.
Il fait 10e.
Il fait 15 et 10. 15 à la première, 10 à la deuxième.
Ouais. Donc, c'était retransmis sur Eurosport, on arrive à gauler quelques images. Ouais. C'est compliqué. Faut chercher les enfants.
Mais donc, pour une première en Superbike, c'est pas mal. C'est pas mal. Montée en puissance. À suivre.
Ouais, c'est ça. On sait la prochaine.
Non, je sais pas. Du moins, on sait, mais moi, je sais pas.
Bon, ben, ce sera la surprise des vacances.
Voilà.
Eh bien écoutez, on se retrouve au mois de septembre avec la Mutuelle.
Passez de bonnes vacances. Et puis on va espérer que tout le monde puisse rouler loin, pas de limite de 100 km, etc. Profitez bien.
Et gaz.
Allez. Ciao.